vivrons-nous demain, Jean-Pierre Estrampe ? Architecture, urbanisme, territoire, cadre de vie. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais commencer par rappeler une affaire tragique, assez ancienne, qui est l'histoire du talc orange. Alors, je ne vais pas faire on de la te raconte, vous raconter des histoires tragiques, mais c'est simplement pour la métaphore et prendre cette histoire tragique et dramatique comme un exemple pour notre temps présent. Alors, je rappelle les faits, c'était au début des années 80, il y a eu des bébés qui ont été intoxiqués, gravement atteints et par une maladie mystérieuse et de nombreux sont morts, je crois qu'il y a eu 30 morts, 200 touchés et on ne savait pas très bien quel était le mal mystérieux. Donc ils avaient des érythèmes, ils avaient des rougeurs et on les talquait puisque c'était à cette époque-là l'habitude de talquer les bébés quand ils avaient les rougeurs. Et on a découvert trop tard qu'en fait, c'était le talc qui était la cause de ces rougeurs et des séquelles et de la mort des bébés. Donc c'est une affaire qui a fait grand bruit à son époque et le tragique de l'histoire, c'est que le remède était supposé guérir et c'était le mal lui-même. Alors le parallèle que je fais, c'est par rapport aujourd'hui au problème de la circulation et le problème de la mobilité qui apparaissent d'une manière importante, d'autant plus qu'il y a les campagnes municipales et on en parle beaucoup pour la ville de Paris et pour la ville de Toulouse et pour d'autres villes. Donc je pensais à cela en voyant et en écoutant le fait que les Toulousains, par exemple, passent plusieurs semaines dans les embouteillages et je regardais en face cette contrainte, ces problèmes, qu'est-ce que l'on mettait comme remède et comme solution. Et en fait, je me rends compte que d'une manière générale, et ce n'est pas qu'à Toulouse, mais l'exemple de Paris était assez signifiant, on propose la suppression des voies, on propose la suppression des places de parking et on a des, on peut dire, des trajets de plus en plus complexes. Et ça me semble être en fait le contraire de ce que l'on voudrait atteindre, puisqu'en fait, comme le talc, le remède produit encore plus justement des embouteillages que l'on dénonce. Donc c'est assez surprenant comme processus mental. Et il suffit par exemple de voir autour de Toulouse, alors je pensais par exemple en venant de Castanet à Ramonville, il y a un morceau de route sur l'ancienne National 113 où on a une très large voie centrale pour les transports en commun et les voitures individuelles sont sur des deux allées de part et d'autre très étroites et qui sont aux heures de pointe mais presque toute la journée embouteillées et on a ces deux grandes voies de bus avec très peu de bus qui passent et souvent des bus vides d'ailleurs. Alors, un autre exemple, c'est le Pont Saint-Michel que tout le monde connaît à Toulouse. Et on a, ce qui est très bien, le métro aérien, le tramway, qui passe au milieu, exactement pareil, de la voirie. Et on a justement, de part et d'autre, une file de voitures en file indienne et qui a du mal à se frayer le passage, même si la fréquence des tramways est plus grande que celle des autobus dont je parlais à l'instant. Mais Dans le cas présent, on pouvait tout à fait avoir le tramway qui est contre le parapet avec un trottoir pour les piétons, ce qui était tout à fait bien, et le reste de l'espace qui soit pour la circulation normale. Donc en fait, on a deux trottoirs de part et d'autre, on a deux trottoirs donc contre les parapets, on a deux trottoirs qui sont très larges pour une circulation piétonne quasiment inexistante ou très faible, et on a aussi deux trottoirs de part et d'autre du tramway, ce qui est sidérant, et effectivement les voitures ne sont pas prises en considération et on a ces embouteillages. Donc ça me paraît un peu hypocrite de dénoncer les embouteillages et puis d'avoir cette politique continue que l'on a dans les villes pour on peut dire, je ne sais pas si on veut décourager la voiture, mais en tout cas il y a des nuisances très importantes, et il serait intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a derrière ces pratiques. À mon sens, il y a une mise en scène, politico-technocratique visible, où on veut dire, regardez comme nous sommes vertueux, puisqu'en fait nous privilégions la voie des transports en commun. Et ça, c'est-à-dire, on rend les choses visibles beaucoup plus qu'efficaces. Je pense que cette symbolisation qui se fait entre des solutions qui seraient supposées être vertueuses, c'est-à-dire le transport en commun, contre les solutions qui ne le seraient pas, et ce sont celles de la voiture individuelle, me semble, je ne sais pas si on peut dire, mais je sens puéril, puisqu'en fait, on peut tout à fait être à la fois piéton, à la fois automobiliste et à la fois usager les transports en commun, et le monde ne se sépare pas entre le bien et le mal à ce niveau-là. Donc il s'agit tout de même de choix qui sont politiques, mais qui entraînent des ressources financières importantes, et on peut se poser la question aussi à quelle population ces signaux s'adressent. Alors, le cas de Paris, on a Madame Hidalgo qui actuellement est en train de vouloir transformer la ville capitale en village pyrénéen, en verdissant les rues et autres parallèles avec des villes comme Tokyo. Bon, c'est assez surprenant de prendre comme modèle Tokyo pour faire des petits parcs. Ces grandes villes japonaises me paraissent pas un exemple, et on a quand même beaucoup plus de touristes japonais qui viennent visiter la ville de lumière que de Parisiens qui vont visiter Tokyo pour son architecture et son urbanisme. Donc c'est très surprenant, ce type d'inversion. Donc oui, pour finir sur Paris, on peut se poser la question, d'une part, la ville capitale, c'est la ville de la France, donc elle concerne tous les Français. En deuxième stade, ça sera les franciliens, c'est-à-dire les gens qui travaillent ou qui sont obligés d'aller à la ville. Et puis, il y a en dernier lieu les habitants. J'écoutais à la télévision l'autre jour la rédactrice en chef ou la rédactrice de l'Express, Anne Rauschenberg, qui disait qu'il s'agissait de la gauche Marie-Antoinette. Donc, en fait, c'était Marie-Antoinette, probablement c'est apocryphe, le fait que s'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. Mais en fait, là, on serait dans le cas, s'ils ont des embouteillages, mais qu'ils fassent du vélo ou qu'ils marchent à pied. Alors, on se trouve dans ces différents niveaux de population, mais il faut bien savoir qu'à Paris, il y a 2 millions d'habitants et que la ville perd 12 000 habitants par an. Donc il s'agit quand même d'une population restreinte. Et dans le cas du centre-ville de Toulouse, nous sommes là aussi sur une population qui n'a rien à voir avec la population de l'agglomération. Alors, suivant les chiffres, on est à 1 200 000 ou 800 000, suivant la manière dont on comptabilise l'aire urbaine ou la métropole. Mais le centre-ville fait ses 60 000 habitants et donc cette population-là n'est pas la population de référence par rapport à Toulouse. En d'autres termes, les personnes qui ont accès aux différents services qui sont dans le centre-ville, historiquement ou récemment. Bon, il y a les services publics, il y a la préfecture, la sécurité sociale, mais aussi tous les équipements culturels que l'on a, de théâtre, musée et autres lieux. Il est évident que ça ne s'adresse pas qu'aux seuls habitants du centre-ville et qu'il s'agit justement d'un accès collectif à l'ensemble de la population. Donc, entre cet électorat qui va être effectivement scindé et l'ensemble de la population, il y a des questions qui sont des questions de démocratie et qui doivent être interrogés. Voilà, donc on va continuer. On va d'abord écouter Rameau, une pièce dynamique qui va être un peu plus amusante que mon propos, qui est un peu pessimiste. C'était donc le rondeau des Indes Galantes, par les musiciens du Louvre sous la direction de Marc Mikonski. Donc c'était une visite guillerette qui faisait oublier la tristesse du propos introductif. Alors, on va continuer sur notre histoire du talc criminel et qui est une métaphore de justement la manière dont un remède crée les problèmes. Et pour rester dans le domaine qui est le nôtre, de l'urbanisme, on va parler de la technostructure et de l'urbanisme. Alors, c'est assez surprenant, c'est que l'urbanisme, c'est un mot qui est inventé au XIXe siècle, on en avait déjà parlé précédemment, et qu'en fait, toutes nos villes exemplaires et modèles ont été créées avant l'invention du mot. Ça veut dire qu'il y avait un génie propre aux civilisations qui faisait que les choses se faisaient sans forcément mettre des mots dessus, ou du moins avoir un système d'organisation, disons, de réalisation qui lui soit propre. En fait, les villes, elles étaient créées à la fois par des décisions politiques et puis par des géomètres et des architectes qui mettaient en œuvre depuis l'aube de l'humanité nos villes qui sont, en tout cas pour les villes européennes, on peut dire, des modèles et indépassables. Alors, la question, c'est que depuis, on peut dire, un siècle, on a vu progressivement augmenter à la fois le discours sur l'urbanisme et, en parallèle, les troupes qui accompagnent ce discours, qui vont former une technostructure de plus en plus importante. Et c'est-à-dire la technostructure qui est supposée mettre en œuvre les décisions du politique, eh bien, on va avoir maintenant un phénomène qui va être inversé. Et j'écoutais l'interview de Patrick Bouchain, qui est un architecte qui vient de recevoir, ou du moins l'année dernière, il a eu le prix national de l'urbanisme. Bon, on ne sait jamais très bien en France qui c'est qui décerne ces prix parisiens, mais enfin, bon, ce n'est pas le débat. Donc, Patrick Bouchain, l'architecte urbaniste, disait dans cette interview que l'on peut retrouver sur YouTube qu'il faisait une sorte d'université d'été pour les politiques, parce que il avait la parole de celui qui savait, et que les politiques étaient des imbéciles et des ignares, il allait leur apprendre l'urbanisme et comment faire les villes. Alors là, on est sur un problème qui est assez grave, parce que le politique, il a la légitimité dans une démocratie, et la technostructure, elle n'en a aucune. Donc, on a aujourd'hui cette inversion du pouvoir. Et lors d'une réunion aussi à Toulouse, à l'Ordre des architectes, où il y avait un jeune urbaniste de Toulouse Métropole qui faisait la présentation du projet de Toulouse à l'urbanisme et qui scandait son propos de la même phrase, c'était « les élus nous suivent ». Effectivement, j'étais à peu près le seul opposant à ces propos qui semblaient convenir à tout le monde. Mais c'est pas comme cela que les choses doivent se passer. C'est la politique, et c'est justement, doit énoncer, et puis il y a la technostructure qui met en phase, c'est-à-dire la technostructure doit suivre la politique et non l'inverse. Donc, on voit justement que cette inflation, comme le talc des pauvres bébés que l'on assassinait tranquillement, on a cette inflation d'une technostructure qui demande de plus en plus, et notamment le fait de éduquer les populations, d'éduquer les politiques au nom d'une théorie que l'on ne sait pas, qui n'est pas débattue et qui est quelque chose qui appartient à un petit groupe de gens dont la légitimité est toujours à remettre en cause. On n'est pas dans une science et la preuve, c'est que je suis en train de développer des idées. Je ne prétends pas détenir la vérité, mais je prétends simplement mettre les choses en débat. Et il n'y a pas dans le domaine de l'art, donc il s'agit de l'art de faire des villes, il s'agit de l'art de l'architecture, il n'y a pas de vérité. Et il y a simplement des choix qui peuvent être débattus. Mais le débat, dans ce cas-là, n'existe pas parce qu'il y a des gens qui prétendent détenir la vérité. Donc, on se trouve avec à la fois cette opposition et puis à la fois, et ça c'est une des conséquences de cette technostructure qui, pour tenir son pouvoir, va parler d'un langage qui lui est propre et va l'imposer à la fois aux élus et à la population. Alors les mots, par exemple, on vous dit, c'est la référence au SCOT. Alors le SCOT, c'est quoi le SCOT? Et les gens ils se disent, c'est le Scotland, c'est Scotch Whisky. Non, alors le SCOT, c'est le schéma de cohésion territoriale. Alors, c'est du très bon français, ça. Hein. Donc, un schéma en français, c'est un dessin rapide et explicatif. Et donc, la cohésion territoriale, j'aimerais bien qu'on m'explique ce que c'est que la cohésion territoriale. Alors, ça, c'est un document d'urbanisme assez ancien et qui fait référence. La région Occitanie vient de sortir, en fin de l'année dernière, un document avec un acronyme qui n'est pas le SCOT, mais qui est pas loin, qui s'appelle le STRADET. Alors le STRADET, alors tenez-vous bien, c'est le schéma, on revient toujours à cette histoire de schéma. Alors le document, il fait 1500 pages, je crois, vous imaginez, le schéma schématique. Alors, ça s'appelle Schéma régional d'aménagement durable et d'égalité des territoires. Alors, l'égalité des territoires, alors on est passé de la cohérence des territoires à l'égalité des territoires. Alors, j'aimerais bien qu'on m'explique ce qu'est l'égalité des territoires, parce que un pays comme la France, justement, sa grande richesse, c'est la diversité des territoires, ce qui n'est pas le cas de la plupart des pays. Et nous bénéficions d'une situation géographique exceptionnelle qui fait que nous sommes au carrefour de différentes océans, Méditerranée, montagnes et une grande diversité de territoires à la fois géographique et géologique, et aussi à la fois culturel, puisqu'il y a des changements au niveau des villes, au niveau des architectures, quand on se déplace dans notre pays, et ce qui en fait, je crois, la destination touristique de 80 millions de touristes, et qui est la première du monde. Donc, l'égalité des territoires, ça voudrait dire qu'on va détruire les montagnes et combler les vallées et les plaines. Ça serait apparemment l'égalitarisme français, on irait vers cela. Bon, évidemment, je plaisante. Mais vous voyez, ce langage, que je reprends encore la formulation du STRADET, c'est le schéma régional d'aménagement durable d'égalité des territoires. Donc, si parmi les auditeurs, il y a des gens qui veulent me faire une traduction de ce beau langage technocratique que personne ne comprend. On est dans les médecins de Molière et c'est ce faux latin qui impressionne les populations et que personne ne comprend. Donc là, je crois qu'il y a un problème démocratique, il y a un problème aussi probablement d'une partie de la population, gilets jaunes ou autres, qui s'estiment hors de cette compréhension, mais les gens qui parlent ce sabir ne le comprennent pas parce qu'il n'y a rien à comprendre et c'est quand même quelque chose qui me paraît assez grave. Alors, par exemple, l'écologie qui est une notion tout à fait intéressante et importante, mais on a quand même une écologie politique qui raffole de ces expressions. Et dans le cas, par exemple, de ce que je viens de dire, de l'aménagement durable, c'est quoi le durable ? Alors, pour un architecte que je suis, le durable, c'est ce qui dure. Je pense que c'est pour tout le monde pareil, c'est-à-dire que on dit ce qui va tenir dans le temps. Et le propre de l'architecture, par exemple l'architecture romaine ou l'architecture égyptienne, c'est ça a traversé les siècles et les millénaires, donc c'était durable. Ah non, non, mais c'est pas ça durable. Durable, on va me dire, c'est construire en bois. Ah bon ? Vous connaissez l'histoire des trois petits cochons ? Alors l'histoire des trois petits cochons, il y avait trois petits cochons, il y en avait un qui construisait la maison en paille. Et puis, évidemment, le loup, il a soufflé et il a détruit la maison en paille. Mais alors, c'était la maison en paille. Aujourd'hui, c'est quand même la maison la plus écologique. Hein, puis, il y a la maison en bois. Alors, la maison en bois, c'est aussi très écologique, peut-être un peu moins que la paille. Mais le loup, il souffle et il fait tomber la maison en bois. Et puis, il y a la maison en briques. Et c'est celle-là qui abrite les trois petits cochons et qui fait que le loup se heurte au mur de briques et les petits cochons gagnent sur le loup. Alors, ça me paraît être ce conte enfantin est aujourd'hui inversé. Et on a donc le vertueux qui va être le fragile, et on l'appelle d'une manière absolument sidérante, on va l'appeler le durable. Voilà, donc je vous laisse sur cette interrogation. Réfléchissez aux trois petits cochons, et en attendant la semaine prochaine. Demain. Merci à Hugo qui officiait la technique et à Monique qui nous assistait. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site d'Esprit Occitanie et son application smartphone. Bonne journée à toutes et à tous, et à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Où vivrons-nous demain ?